Allez-y.
Bonjour. Donc vous avez fait le lien entre la privation de la liberté, la quasi-impossibilité d'accéder au savoir et l'impossibilité d'accéder aux fonctions de pouvoir. Et bien sûr, ça a fait écho en moi aux marches mondiales contre la pauvreté et la violence qui ont lieu plusieurs années de suite. Et par exemple, moi j'étais à celle de New York en 2000, où effectivement nous, femmes de l'Occident, en l'occurrence de France, on était avec nos panneaux pour demander la parité. Et on avait en face de nous des femmes d'Afrique ou de différents pays qui venaient en disant « Nous, on en est à demander une carte d'identité, on en est à demander la possession de la terre, mais battez-vous pour la parité parce que vous tracez un peu le chemin. Hein. » Et donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu à la tribune, parce que souvent, dans ces journées, et même dans des journées qui se veulent intellectuelles, voulant refaire la société, on évacue souvent cette question. Par exemple, j'étais dans un forum sur « Voulons-nous vraiment l'égalité ?» et on voit souvent l'égalité d'un point de vue économique, sans parler des besoins fondamentaux qui sont, par exemple, le respect, la dignité ou, je sais pas, d'autres valeurs essentielles. Et quand on intervient, enfin, moi, j'ai toujours l'impression d'intervenir en tant que la féministe de service qui rappelle qu'il y a une autre égalité fondamentale et que la suggestion des femmes bloque beaucoup de compréhension. Par exemple, j'étais dans un atelier aussi où c'était un atelier utopiste où on nous demandait de réfléchir sur ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu l'esclavage, donc la déportation d'un nombre important de mâles africains vers l'Amérique. Et donc on a fait des utopies et on a dit il y a eu une compensation parce qu'il y a eu par exemple la polygamie. Alors moi j'ai dit s'il n'y avait pas eu cette déportation, peut-être que les femmes auraient peut-être plus pris en main plus la société et joué un rôle dans l'économie, comme on voit qu'actuellement les femmes africaines jouent un rôle dans l'économie domestique. Je voudrais savoir ce que vous pensez justement de la façon dont actuellement, cette question de l'égalité homme-femme est quand même très marginalisée et prise effectivement comme anecdotique, alors que je trouve qu'elle n'est pas du tout.
Merci. Est-ce que vous pouvez passer le micro dans les rangs devant vous? Voilà, si vous pouvez faire passer, il y a quelqu'un juste devant vous. Voilà. Allez-y.
Bonjour.
Au premier rang. Oui.
Ma question serait la suivante. Quels avantages, peut-être pour une, il y aura-t-il pour les hommes, est-ce qu'il, dans un rapport égalitaire homme-femme, quels avantages évidents voyez-vous se dessiner pour les hommes, qui serait quelque chose d'incitatif finalement à cette progressive égalité entre le masculin et le féminin? Quels avantages pour les hommes?
Merci. La question de la personne qui est au troisième rang, oui. On vous entend pas là. Micro.
Plus près. Ah, oui, bonjour. Pensez-vous qu'il soit possible d'aboutir à une modification en profondeur de la représentation qu'ont les hommes de leur virilité?
D'arriver à une, pardon?
Je répète.
Non, c'est bon.
Oui, oui.
C'est bon.
Si.
Ouais. Est-ce que vous pouvez passer juste derrière vous? Je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait la. Voilà. Vous pouvez faire passer plusieurs rangs là. Bon.
Excusez-moi. Moi, c'est simplement. Excusez-moi. Par rapport à l'identité, savoir si vous avez une réflexion qui lie. Par exemple, lorsqu'on revient en arrière, lorsque vous avez expliqué qu'on fait société et les hommes prêtent leur sœur et leur femme, eh bien, est-ce que c'est pas au départ parce qu'ils avaient peur de perdre la trace de l'identité profondément? C'est-à-dire, là je rêve, hein, je pense que l'identité serait plus forte que le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que garder trace de sa propre identité, c'est essentiel et c'est peut-être plus fort que le pouvoir. Bon, juste, voilà.
Alors, comme on est déjà en train de déborder sur l'horaire, je propose que Françoise Héritier réponde à cette dernière série de questions.
La première question,
La première question était plutôt un débat, une constatation du fait que le... Que la question de cette inégalité du rapport des sexes, cette hiérarchie du rapport des sexes, est généralement systématiquement ignorée dans les forums scientifiques, pour ne parler que d'eux, parce qu'en fait elle est très généralement minorisée et ignorée. Encore que moi je ne suis pas de ceux qui pensent que que les luttes féministes s'étiolent et qu'on en parle moins, j'ai l'impression qu'elles continuent avec beaucoup de vigueur et qu'il y a des acquis. Mais cela dit, je n'ai pas dit pour autant que les choses sont gagnées, et je pense que l'inégalité, elle existe aussi entre femmes d'une même société et entre femmes de sociétés différentes. L'idée d'une marche civile contre la pauvreté qui unirait des femmes du Burkina ou du Kenya et de villages kényans ou de bourgeoises du 16e arrondissement, c'est évident que ce n'est pas exactement les mêmes choses qu'elles demandent. J'avais été très frappée notamment par des comptes rendus d'ONG en milieu Touareg, où on disait que les femmes, en fait, demandent, quand il y a des visites médicales qui passent, à dos de dromadaires, là, qui passent de temps en temps, très rarement, les femmes demandent à avoir la pilule. Et on leur dit que ce n'est pas possible, qu'il faut une ordonnance et puis qu'il faut un suivi régulier, etc. Donc on ne leur donne pas. Et elles ne veulent pas des préservatifs. Et pourquoi n'en veulent-elles pas? Elles le disent extrêmement crûment. Mon mari ne voudra pas. Si je veux un préservatif, il considérera que c'est pour lui être infidèle. Donc je veux la pilule comme les femmes, comme les femmes d'Occident l'ont. Et on le leur refuse. Bon, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas les mêmes exigences au même moment actuellement dans le monde. Alors cela dit... vous avez fait état de la polygamie à un moment, je n'ai pas exactement compris quelle était exactement la question que vous me posiez à ce niveau-là, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Tout récemment, j'ai lu dans la presse un écho partant de cette observation du manque de femmes, du manque énorme de femmes, décisif, considérable, en Inde, en Chine, au Vietnam, et de plus en plus dans des pays d'Europe de l'Est. Bon, parce que la sélection prénatale, avec l'avortement sélectif, touche les filles. Et on veut, par tradition, alors c'est encore une fois, là c'est le cerveau limbique qui fonctionne, hein, croyez-moi, on veut des fils et pas des filles. Bon, donc, et le résultat, c'est qu'il manque, mais à l'heure actuelle, je ne voudrais pas le chiffrer, mais je crois que c'est des millions de femmes qui manquent dans ces différents pays, et à l'aube, aux environs des années 50, ça sera vraiment ça sera un lieu potentiel de conflits armés, c'est-à-dire se procurer des femmes où elles sont, bon, d'aller les prendre. Bon. Et une des solutions qui est proposée dans la presse, par je ne sais plus qui, c'est de dire, mais pourquoi pas, à ce moment-là, réouvrir, créer la polyandrie. Créer la polyandrie. C'est-à-dire, c'est une la polyandrie, pour tout, c'est, quand on dit polygamie, on veut dire à la fois polygynie et polyandrie. On utilise généralement le mot polygamie, mariage multiple, mais nous, dans notre esprit, par mariage multiple, on entend un homme avec plusieurs femmes. Le terme réel, c'est polygynie. Et la situation contraire, la polyandrie, elle existe. Il y a un certain nombre de sociétés dans le monde qui ont connu la polyandrie parce qu'il y avait une raréfaction volontaire de femmes à la naissance. Bon. Et donc, les solutions de polyandrie ne sont pas des solutions si faciles que ça à manier. Parce qu'on en revient toujours, à cette idée qui est le père. Vous comprenez? Alors, dans les sociétés polyandres qui existent, ce sont des sociétés extrêmement raffinées qui ont généralement résolu le problème en décidant que lorsque ils ont imaginé une société où quand un frère, un homme se marie, c'est l'aîné qui prend femme, eh bien, disons qu'il a quatre frères, eh bien, ces quatre frères prennent la même femme que lui. Donc, il épouse une femme et elle est la femme de cinq frères. Bon. Et donc, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a plus pas besoin de se poser des problèmes. Tous les frères sont mariés en même temps à la même femme. Mais ils ne résident avec leur épouse que pendant des durées déterminées. C'est-à-dire, il y en a un qui vit avec elle pendant un an, et puis il sera remplacé par le deuxième, puis par le troisième, c'est-à-dire que chacun n'a accès à son épouse que tous les 5 ans, si vous voulez. Donc il faut... Non, je dis ça en passant, parce que c'est peut-être une solution, mais elle pose quand même un certain nombre de problèmes de régulation, et elle pose des problèmes notamment par rapport à cette fameuse interrogation dont je parlais, qui existe depuis la nuit des temps, suis-je bien le père ? Bon, d'accord. Alors ça peut, elle se résout aussi souvent de façon institutionnelle en disant que le père de tous les enfants, c'est le premier. Les autres ne sont pas pères. Bon, c'est encore une chose qu'il faut accepter, encore une fois, vous voyez. Donc il y a toute une série de contraintes qui vont avec, et ce n'est donc pas si simple, sans compter naturellement que les choses, quand une institution voit le jour, c'est qu'elle se crée d'elle-même, si je puis dire, par une série de contraintes qui font qu'on est acculé à le faire, qu'on ne peut pas décider un jour qu'on va créer la polygendrie, de même que tout récemment, il y avait un député indien qui a demandé s'il était possible de supprimer la matrilinéarité d'une tribu à laquelle il appartenait, parce qu'il considérait que le droit maternel, la matrilinéarité, nuisait à son pouvoir d'homme. Et il demandait que par la loi, on décide qu'elle ne serait plus matrilinéaire. Ben non, on ne peut pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Bon. Alors, quels avantages pour les hommes à entrer dans un rapport égalitaire ? Ben, et c'est tout le problème est là. Et tout le problème est là, c'est que les avantages de l'inégalité, ils sont évidents pour une partie de l'humanité. Le plus ancien témoignage que je connaisse date de l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, et de la deuxième ou de la troisième dynastie. C'est un architecte, philosophe, qui dit à un homme, si tu es chez toi et que ta femme a rempli la cruche, ta femme a rempli la cruche, et que tu as soif, eh bien, tu peux tendre le bras, prendre la louche et le gobelet et te servir toi-même, ne l'appelle pas pour te servir. Donc, sous-entendu, vous voyez, c'était l'idée que déjà, à cette époque, ça voulait dire qu'un homme, non seulement sa femme remplissait la cruche, mais s'il était à côté, il l'appelait pour se faire servir, et que la sagesse commandait qu'il ne le fît pas. Il ne le fisse point. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Donc, ça avait donc effectivement un certain nombre d'avantages. Alors, quels avantages ? Bien, ils sont, là aussi, ce n'est pas à moi de les donner. Ils se découvriront au fur et à mesure. Mais j'en vois quand même un certain nombre qui pourront paraître mineurs, mais si vous y réfléchissez bien, ce sont des avantages majeurs. Le premier, c'est de ne pas être contraint de devoir toujours paraître. La nécessité, quitter son costume du « je suis là, je suis le plus fort, j'ai réponse à tout, je peux avoir une solution pour tout ». Accepter d'être à égalité dans un rapport humain avec les possibles et les impossibles, mais accepter donc ce rapport de ne pas être toujours sur un piédestal, donc de ne pas avoir toujours à paraître. La capacité et le plaisir de discuter d'égal à égal, c'est-à-dire de ne plus se trouver entre soi en assénant des vérités, mais être d'entendre la parole d'autrui. Eh bien, je vous assure, quand on s'y met à entendre vraiment ce que l'autre vous dit, l'autre le plus proche, c'est-à-dire son conjoint ou les gens de sa famille, on y trouve une véritable satisfaction. Il y a également cette capacité que j'appelle de la séduction permanente. C'est-à-dire que dans ce rapport tel que je le vois, ce qui devrait se créer, ce rapport d'égalité, ça veut dire que rien n'est jamais acquis. Bon, c'est le mariage ou le pax, ou quel que soit le choix que l'on peut faire de vivre ensemble, ça suppose, l'égalité suppose à la fois le respect, la considération pour autrui, ce désir de continuer à se parler et à se séduire. Et parce qu'on oublie ça dans les situations vraiment installées de couple. On ne cherche plus à séduire. Alors la séduction, c'est fondamental comme moteur de vie, et je crois que l'égalité, telle que je la conçois, se passe d'institution, mais elle ne se passe pas de la nécessité de séduction. Et puis il y a aussi, alors, bon, pouvoir s'occuper de ses enfants, ne pas être simplement, comme je le vois souvent quand je m'arrive de lire, comme tout le monde, des vies d'acteurs qui sont interviewés, qui vous disent, eh bien voilà, sur le tard, je me suis remariée, j'ai maintenant des enfants de 2-3 ans, enfin je peux m'occuper d'eux, je n'ai pas pu m'occuper des premiers, comme je le regrette. Bon, ben d'accord, ben, les premiers ne sont peut-être pas très contents d'avoir des petits frères et des petites sœurs, mais en tout cas, eux, ils auront fait l'impasse sur un père, et un père aura fait l'impasse face sur ses enfants parce que le mode de vie qu'on lui impose le fait rentrer tard, fait qu'il a d'autres soucis en tête, fait qu'il considère que c'est une affaire de femme. Non, considérer que c'est affaire, s'occuper de ses enfants, c'est aussi une affaire d'homme. Bah, tout ça me paraît des avantages qui valent la peine de s'y intéresser. Enfin... Quelle représentation ont les hommes de leur virilité ? Ça m'est difficile de dire, moi je n'ai pas travaillé comme anthropologue sur cette question. Et là tout récemment, je crois qu'il y a deux volumes qui viennent de paraître avec Courtine et Légarello, ah oui, sur l'histoire de la masculinité.
Trois volumes, Histoire de la virilité, édition du Seuil.
Histoire de la virilité. Mais je dirais une chose qui me paraît importante, et là aussi qui part de mon expérience d'anthropologue. Comment vous expliquer ? Je vais raconter cette expérience, et puis après, j'en ferai le commentaire. Je vous en ai parlé. Sur le terrain, donc en pays Samo, j'ai mis longtemps à m'interroger sur un fait que j'avais repéré, que je voyais année après année, qui était que les femmes qui travaillent énormément, qui ont toujours des occupations, qui portent leur bébé dans le dos, avaient des comportements, disons, aberrants, très fluctuants, quand le bébé pleurait et demandait le sein. C'est-à-dire que dans certains cas, elles arrêtaient ce qu'elles faisaient et elles donnaient le sein tout de suite. Et dans d'autres fois, elles continuaient leurs activités, elles laissaient pleurer le bébé. Parfois, elles étaient même irritées par les pleurs du bébé. Elles s'en défaisaient auprès d'une petite fille qui passait par là. Et je ne m'intéressais pas tellement à ça jusqu'au jour quand même où j'ai remarqué une fois, deux fois, trois fois. Puis après, bon, j'ai fini par me rendre compte que c'était la règle, que quand c'était un petit garçon qui pleurait, on lui donnait le sein tout de suite. Et quand c'était une petite fille qui pleurait, on la faisait attendre. Bon. Mais systématiquement. Les mères, elles ont toujours des choses à faire. Donc, c'est pas une... Et donc elles continuent ce qu'elles faisaient, elles font attendre. Alors là, quand même, ça m'a posé une grosse question. Et j'ai commencé à poser des questions à ces femmes en leur demandant pourquoi elles agissaient ainsi. Et la réponse a toujours été la même avec les variantes individuelles, bien sûr. C'était, alors en se référant au fond commun de représentation de ce monde, qui est fondé sur la notion de chaleur, de danger, etc., ils disent, les petits garçons ont le cœur rouge, fourrou, hein, le cœur rouge. Rouge, ça veut dire ardent, tempétueux, colérique, dangereux. Et donc, ces enfants qui ont le cœur rouge, si on les fait attendre, ils risquent d'en mourir, d'avoir de grosses syncopes et d'en mourir. Donc il faut leur donner le sein tout de suite parce que autrement ça se passera mal pour eux. En revanche, pourquoi les petites filles ? Ça n'a pas d'importance. Parce que les filles, une femme, elle disait ça avec leur humour à elle, une femme ne sera jamais satisfaite dans ses désirs de toute sa vie. Alors il faut le leur apprendre tout de suite. Bon. Alors, c'était dit avec... Elle le disait avec humour, mais elle le disait quand même. Et ce qui se faisait, c'est ma réponse à votre question, c'est que d'une certaine façon, on faisait de la sorte, très tôt, dès la naissance, deux types d'individus. Ceux pour qui il paraît absolument normal et licite qu'il y ait une satisfaction immédiate à tous leurs désirs. Il n'y a pas de question à se poser, les désirs doivent être satisfaits et c'est normal. Et ceux pour qui il y a cette insatisfaction chronique et surtout cette inquiétude de savoir si leurs désirs sont licites. On fait donc deux types d'individus qui sont armés totalement différemment devant la vie. Bon, je ne vous dis pas que tout le monde agit dans toutes les sociétés comme les Samo, mais si vous regardez d'un peu près ce qui se passe dans nos sociétés, et notamment, je me souviens du livre sur la fabrique des petites filles qui a été écrit il y a fort longtemps aux librairies des femmes, eh bien, nous avons des comportements assez semblables. Il m'arrive assez fréquemment, lorsqu'on discute du dimorphisme sexuel et du fait que les hommes sont en moyenne sont plus grands, plus forts, etc., que les femmes, et de faire état des théories actuelles sur la sélection culturelle qui s'est faite par l'alimentation, et par les choix alimentaires, et de montrer par exemple qu'en Inde, et dans bien d'autres régions, mais je dis l'Inde, ce n'est pas pour stigmatiser, eh bien c'est au moment où les femmes sont ont le plus besoin de protéines et de calcium qu'elles en ont le moins, parce que les interdits alimentaires sur les œufs, la viande, le poisson, sont quand elles sont enceintes et allaitantes. Elles ne mangent que des bouillies. Bon, c'est évident que ça construit des corps différents. Mais des femmes viennent me dire, ben, je me rends compte, je suis désolée, ça m'a rendu coupable, je me rends compte que moi maintenant, française, à l'heure actuelle, quand je partage les portions à table, je donne plus de viande à mon fils qu'à ma fille. Moi, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais apparemment, c'est encore un problème d'actualité. Voilà, on arrête là.
Ben, merci beaucoup. Désolé pour...
Merci.
Merci Françoise Héritier, désolé pour le retard, désolé pour ceux qui n'auront pas pu poser des questions. Et aller à la librairie, prendre les livres de Françoise Héritier qui sont passionnants.